France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La science et ses mauvaises consciences, c'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, Oppenheimer, Heisenberg, l'enrôlement des physiciens dans la construction de la bombe atomique. L'équipe d'Avec Philosophie avait envisagé et préparé cette série, avec en son sein cet épisode sur la bombe atomique et les physiciens, bien avant l'évolution des choses au Moyen-Orient et les attaques israéliennes et américaines contre les sites nucléaires iraniens. Il y a des coïncidences, cela arrive. Avant la spectaculaire attaque des États-Unis il y a quelques jours contre trois sites majeurs, le gouvernement israélien a, semble-t-il, éliminé plusieurs responsables en Iran des programmes nucléaires et parmi eux des physiciens. Cela nous rappelle que la science est enrôlée militairement dans tous les pays, pas seulement d'ailleurs en matière d'armement nucléaire, même si c'est avec l'arme nucléaire que cette question de l'enrôlement politico-militaire des savants a pris, à partir du XXe siècle, un tour particulièrement aigu. Un scientifique peut-il résister à créer des armes qui non seulement utilisent son savoir, mais accroissent ce savoir? Comment ne se dirait-il pas que s'il s'abstient, d'autres scientifiques passeront à l'acte, et pas seulement dans son pays à lui, mais dans d'autres pays dont le pouvoir politique peut lui apparaître encore plus dangereux que chez lui? Werner Heisenberg était un physicien allemand majeur de la première moitié du XXe siècle qui a reçu à seulement 31 ans le prix Nobel de physique en 1932. Il semble que l'on doive à de troublantes erreurs de calcul de sa part l'échec des nazis à détenir la bombe atomique. Julius Robert Oppenheimer était un physicien américain qui avait étudié aussi en Europe dans les années 1920 et au tout début des années 1930. À la tête du projet dit Manhattan, il a doté l'Amérique en 1945 des deux bombes lancées les 6 et 9 août 1945 contre les Japonais. Nous partirons de ces deux cas emblématiques pour réfléchir à l'enrôlement politique des scientifiques. Bonjour Harry Bernas.
Bonjour.
Vous êtes physicien, ancien directeur d'un laboratoire du CNRS en France. Vous réfléchissez au rapport entre science et société aux États-Unis et au Japon. Vous avez publié aux éditions du Pommier L'île au bonheur et au Seuil Les merveilleux nuages, que faire du nucléaire. Bonjour Olivier Rey.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, vous êtes spécialiste d'histoire des sciences et de philosophie des sciences. On vous doit notamment un livre au Seuil, Itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine. Et bonjour Ange Potin.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes à distance, mais bien avec nous. Docteur en philosophie, vous êtes actuellement chercheur à l'Université de Vienne où vous travaillez à l'aide de sciences sociales, des sciences sociales, sur ce que l'industrie nucléaire laisse comme trace radioactive par ses déchets notamment. Vous avez publié aux éditions La Découverte, Le nucléaire imaginé, le rêve du capitalisme sans la Terre. Écoutons pour commencer le président des États-Unis Harry Truman, le 6 août 1945, quelques heures après le largage d'une bombe nucléaire sur Hiroshima.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Il y a peu de temps, un avion américain a largué une bombe sur Hiroshima et détruit son utilité pour l'ennemi. Cette bombe est plus puissante que 20 000 tonnes de TNT. C'est une bombe atomique. C'est une exploitation de la puissance fondamentale de l'univers. La force dont le soleil tire sa puissance s'est déchaînée contre ceux qui ont déclenché la guerre en Extrême-Orient. Qu'il n'y ait aucune erreur, nous détruirons complètement la capacité de guerre du Japon.
We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history.
Nous avons dépensé plus de 2 milliards de dollars dans le plus grand pari scientifique de l'histoire, et nous avons gagné. La science et l'industrie ont travaillé ensemble sous la direction de l'armée américaine. Ce qui a été accompli constitue la plus grande réussite de la science organisée dans l'histoire.
Et écoutons à présent un survivant de Nagasaki où fut larguée une deuxième bombe nucléaire américaine le 9 août 1945. Il s'agit de Senji Yamaguchi, à l'époque employé dans une usine japonaise de fabrication d'armes. Il n'est mort qu'en 2013, à 81 ans, après avoir été très gravement irradié. Il était interrogé ici sur France Culture en 2005.
Je suis né dans une famille très pauvre.
Nous étions 8 frères et sœurs. Pendant la guerre, nous n'avions pas beaucoup à manger. J'ai vécu dans la misère les 14 premières années de ma vie. Et la bombe atomique est arrivée. personnes se trouvaient dans mon usine. Il y avait des renforts pour la corvée de creuser des abris antiaériens. Moi, j'étais en caleçon, en train de creuser justement, quand la bombe a explosé. Elle a explosé à environ 500 mètres du sol. J'ai reçu un souffle brûlant de 400 degrés et je me suis effondré par terre. Mon torse tout entier était brûlé. Sur mon corps, la peau a commencé à pourrir et a été envahie par la vermine, comme sur le cadavre d'un rat mort. Les blessures extérieures ont été soignées au bout de 7 mois. Mais à cause des radiations, j'ai perdu mes cheveux. Je me suis mis à saigner de l'anus, des gencives, et des taches noires sont apparues sur mon corps. Par miracle, j'ai survécu.
Olivier Rey, Senji Yamaguchi, que l'on vient d'entendre, incarne par sa survie la mauvaise conscience de la science contemporaine ?
Oui, à sa manière. Mais il incarne aussi une situation un peu inhérente à la science moderne. J'aime bien faire la différence entre technique et technologie. Technique, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité. Technologie, c'est un nouvel ordre de technique qui est apparu à peu près au 19e siècle. Ce sont des techniques qui sont absolument solidaires des sciences mathématiques de la nature. Et si on prend l'énergie nucléaire, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait emblématique, c'est-à-dire qu'autant la technique était élaborée par les hommes dans une confrontation directe avec la nature et était le produit de leur ingéniosité, autant les technologies ne pourraient pas exister sans les théories mathématiques de la nature. Ce n'est pas en regardant la nature qu'on va avoir l'idée d'aller chercher de l'énergie à l'intérieur des atomes, parce qu'on ne sait même pas que les atomes existent. Il faut avoir toute la théorie de physique de la matière pour, dans les équations, que les physiciens se rendent compte qu'il doit y avoir là une énergie énorme qui, si on arrive à l'utiliser, offrira des possibilités qui étaient tout à fait inédites. Et c'est ce qui se passe. Donc la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec les sciences mathématiques de la nature, c'est que les sciences mathématiques de la nature, par leur propre mouvement, mettent au jour, par leur développement, des possibilités technologiques tout à fait inédites. Et on ne peut absolument pas séparer à l'époque moderne la science de ce qu'on pourrait appeler ses applications technologiques, parce que les deux sont profondément imbriqués. Et ce qu'illustre la bombe nucléaire en 1945, c'est le potentiel éventuellement destructeur, ravageur, voire anéantissant que peuvent revêtir ces technologies.
Harry Bernas, quand on entend le président Truman, il y avait donc cette archive que nous avons entendue au début de cette émission, il dit clairement, il vient de tuer des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes, compte tenu des centaines de milliers de personnes, en plus certaines pas tout de suite, enfin, il dit que c'est une des plus grandes réussites, c'est la plus grande réussite de la science dans l'histoire.
Oui, je suis très content que vous insistiez sur ce dernier aspect, parce que il est effectivement assez fondateur de la manière dont les choses ont été traitées, politiquement, économiquement aussi, par la suite. C'est Le projet Manhattan a été déterminant dans l'évolution économique et politique non seulement des États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Ça a déterminé une évolution de la science dans la mesure où, précisément, je rejoins tout à fait ce que disait Olivier Rey à l'instant, dans la mesure où on a incorporé la science dans la production. C'est le complément de ce que disait Olivier Rey tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas seulement... Il y a un effet intérieur à la science qui est lié au fait que la science se mathématise et donc acquiert non seulement de la rigueur, mais aussi du pouvoir sur la réalité. Et au-delà de ça, c'est aussi la possibilité d'intégrer la science dans les processus de production. Et cette science, je voudrais insister juste sur ce point-là, c'est pas seulement la physique nucléaire, c'est pas seulement l'aspect nucléaire de la bombe. C'est toute la science des matériaux, la science de conception, ce qui conduira plus tard aux ordinateurs, etc., qui, à ce moment-là, est en train de naître à l'intérieur des dispositifs industriels et pas seulement des dispositifs des laboratoires.
Mais c'est faux de dire que c'est la science qui a tué, c'est ceux qui l'ont utilisé.
Pardon ?
Dire que c'est la science qui a tué... C'est un peu rapide. La science a permis à d'autres de tuer. Le problème. Quand il dit que c'est une très grande réussite scientifique, c'est même assez impropre comme usage du mot. C'est une arme de guerre inédite qui a utilisé des réussites de la science.
Oui, mais je crois que c'est très bien d'insister là-dessus parce que c'est un scandale absolu. Et c'est la négation de ce pour quoi les scientifiques, en principe, travaillent. C'est-à-dire d'accroître la connaissance, de comprendre la nature, et dans une version antérieure qui, aujourd'hui, a bien démontré qu'elle était plus possible, le pouvoir de l'homme sur la nature. On n'en est plus là. Aujourd'hui, et cette révolution-là, elle se produit depuis ces 70 ans, depuis le projet Manhattan, c'est précisément la réalisation progressive que la science, c'est pas là pour donner le pouvoir de l'homme sur la nature, c'est pour comprendre l'homme dans la nature et établir avec les processus naturels un rapport qui soit pas un rapport de domination pure.
Ange Potin, vous pensez-vous aussi que, après Hiroshima et Nagasaki, comme l'ont dit beaucoup de mouvements antinucléaires, c'est bien la science qu'il faut accuser? Ou bien, vous faites la différence? Vous pensez que voilà, la science, elle a... la science ne veut rien, la science n'a pas d'intention politique, c'est autre chose, mais de facto, c'est elle qui s'est retrouvée sur le banc des accusés. Qu'est-ce que vous en pensez, Ange Potin?
C'est une question qui est fondamentale, dans la mesure où, bon, je suis d'accord sur le fait que c'est pas tant la science qui a été à l'impulsion du projet Manhattan qu'un projet d'industrialisation du meurtre, hein, l'aboutissement d'un projet d'industrialisation du meurtre qui remonte historiquement à plus longtemps. Mais par contre, il y a quelque chose de, je pense, éthiquement ambigu dans la manière dont les scientifiques se sont avec beaucoup d'enthousiasme, enrôlés dans ce projet-là. Et dans le discours de Truman, donc vous avez passé au début, il parle de l'exploitation de la puissance fondamentale de l'univers. Et il y avait quelque chose là-dedans qui a énormément attiré l'enthousiasme des scientifiques, cette idée qu'on allait pouvoir s'attaquer, vraiment utiliser le cœur de la matière elle-même. Et dans cet enthousiasme-là, il y avait une forme d'aveuglement par rapport à la fois aux conséquences de l'usage ultérieur, l'usage militaire de cette technique-là, mais aussi par rapport à toute l'infrastructure qui est nécessaire pour rendre possible l'utilisation des atomes d'uranium et de plutonium. Hein, c'est le projet Manhattan, ça a été également le déploiement d'une infrastructure gigantesque aux États-Unis qui a brassé énormément de matériaux très radioactifs et qui laisse un héritage aujourd'hui extrêmement problématique.
Est-ce que vraiment, Olivier Rey, dans le projet Manhattan, tout le monde a été enthousiaste? J'ai cru comprendre qu'un seul savant... est parti à refuser d'y participer. Il s'appelle Joseph Rotblat. Il a quitté Los Alamos et il deviendra le fondateur du mouvement Pugwash en 1957. Il n'y a pas eu plus de doute que cela.
Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. L'une d'entre elles, c'est que, bien sûr, les scientifiques occupent désormais une position stratégique, y compris militairement, puisque on a besoin d'eux pour reconstruire les armes les plus puissantes. Ils pourraient choisir de déserter leur position par leur opposition à la fabrication de ces armes. Mais avec ce problème, c'est que si tous ne désertent pas, de toute façon, le mouvement continuera.
Et c'est un argument très fort, ça.
Oui. Et l'on n'aura fait que donner un avantage à ceux qui auront continué par rapport à ceux qui se seront abstenus. Et en fait, si on prend la situation pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément, c'était une guerre mondiale. Et puis, il y avait le programme américain, mais qui se nourrissait du fait qu'il y avait un programme allemand également, et que si jamais c'était les Allemands, les nazis, qui arrivaient les premiers à fabriquer une bombe nucléaire, ça donnerait la victoire aux puissances de l'Axe, et que ce serait absolument catastrophique. Et beaucoup des scientifiques qui ont collaboré au projet Manhattan étaient des gens qui venaient d'Europe, et qui luttaient de toutes leurs forces contre le risque d'une victoire nazie. Je vais vous donner, j'ai trouvé un texte absolument extraordinaire qui date de 1900, qui est écrit par un lettré chinois qui avait dû s'exiler parce qu'il déplaisait à l'impératrice douairière Cixi et qui s'était retrouvé en Australie. Et il écrit à un de ses amis restés en Chine ceci. Il découvre en Australie donc la technologie occidentale de l'époque et il dit « Les merveilles de ce pays et des nations occidentales nous sont pour la plupart inconnues et nous paraissent incroyables. Toutes ces merveilles rendent-elles les gens plus heureux ? Il est difficile de répondre à pareille question. Ce qui est certain, c'est que le genre humain progresse dans la connaissance et que ceux qui ne suivent pas le rythme des nations les plus avancées se retrouvent victimes de ces nations comme nous l'avons été. Qu'est-ce que le bonheur ? En tout cas, ce n'est pas le bonheur d'être soumis à la volonté d'étrangers et spolié de son territoire. Pour être heureux, il faut être fort. Pour être fort, il faut disposer de richesses. Avec des richesses, il est possible de s'armer afin de se défendre et d'être respecté. C'est pourquoi nous devons recourir aux moyens occidentaux, aux machines et à la science qui produisent les richesses et donnent du pouvoir. Et vous voyez, la Chine de 1830, la période qui s'étend de 1839, première guerre de l'opium, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour la Chine, c'est le siècle de l'humiliation. Et on ne peut pas comprendre la frénésie scientifico-technologique qui s'est emparée de la Chine depuis, sans ce traumatisme. Et ils disent maintenant, c'est fini. Quand en 1964, la Chine a fait exploser sa première bombe nucléaire, la phrase de Mao, c'est « Maintenant, plus personne ne pourra rire de la Chine ».
Ce que vous dites évoque terriblement les derniers jours que nous venons de vivre là, où beaucoup ont dit, à commencer par le président Donald Trump des États-Unis, qu'il faut la force pour la paix. C'est l'argument que vous venez d'employer et que vous venez de noter.
C'est pas vraiment pour la paix, c'est surtout pour ne pas être détruit par les autres.
Mais il y a cette idée que l'enjeu fondamental de la force, et de la force la plus grande possible, c'est qu'elle peut être, et parfois elle est la seule garantie pour obtenir la paix. Ce qui ne va pas de soi, mais on voit que cet argument existe depuis très longtemps, vous venez de le montrer à propos de la Chine, et existe encore aujourd'hui, il est même devenu, me semble-t-il, tout à fait central. Harry Bernas.
Je reviens un petit peu en arrière sur... je vais faire une citation moi aussi, c'est celle d'Oppenheimer. En octobre 1945, donc la bombe a explosé aussi bien à Hiroshima qu'à Nagasaki relativement récemment. Oppenheimer va quitter Los Alamos et fait un discours d'adieu à ses collaborateurs. Dans le discours, il déroule en particulier tous les arguments qui ont été les arguments pour lesquels, précisément, la question que vous posez, les gens se sont mis ensemble pour travailler. Et le dernier argument, le plus important, c'est le suivant. Je cite « Au fond, la raison pour laquelle nous avons fait ce travail » et que c'était une nécessité organique. Si vous êtes un scientifique, vous ne pouvez pas l'arrêter, car vous êtes convaincu qu'il est bon de savoir de quoi est faite la réalité, et qu'il est bon de donner au genre humain le maximum de pouvoir de contrôle sur le monde afin de le gérer selon ses lumières et ses valeurs. Si vous permettez, je vais juste commenter très brièvement. Premièrement, du point de vue scientifique, cet argument est faux. C'est pas vrai. Et c'est démenti par Oppenheimer lui-même, qui a plusieurs reprises dit, en fait, au moment du travail sur la bombe, on savait tout sur la physique nucléaire qui était nécessaire pour faire la bombe, et c'est essentiellement un travail de technique. Donc c'était pas un problème. L'acquisition scientifique, elle était tout à fait mineure dans le projet Manhattan.
Une expérience vivante, si j'ose dire, en vérité mortelle, comme celle de la bombe, n'apprend rien scientifiquement ?
Du point de vue scientifique, ça a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances secondaires. Mais sur les problèmes fondamentaux, non, ça n'a rien appris. Mm-hmm. Bon, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect politique, ces phrases, c'est une manière de se défausser. Les scientifiques se défaussent sur les dirigeants. Il est bon de donner au genre humain le maximum de pouvoir, etc. Donc c'est ceux qui contrôlent les différents pays qui vont être responsables de l'utilisation. Et puis il y a un troisième aspect qui est évidemment le plus important, c'est que la bombe, la révolution principale de la bombe sur le plan, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas au niveau des individus, évidemment, les individus sont concernés, mais elle est tout à fait massive sur le plan à la fois politique, économique, humain et moral, c'est la possibilité de détruire le monde, c'est-à-dire de supprimer le monde humain en particulier. C'est la possibilité de supprimer la civilisation, etc., etc. Et cet aspect-là, pendant 70 ans, tout a été fait pour essayer de l'occulter. Et je pense que ça serait intéressant de revenir sur cette question. Comment est-ce qu'on a pu s'aveugler, rentrer dans des détails techniques de comment on fait pour la dissuasion, par exemple, alors que le vrai problème, c'est la suppression de la civilisation. C'est pas de gagner quelques mégamorts, comme on disait à l'époque, dans les années 60.
Et le fait d'empêcher aujourd'hui pays d'acquérir la bombe, comme l'Iran,
empêcher ou décider que la seule solution, c'est de ne pas avoir de bombe.
Évidemment, ceux qui ont la bombe ne peuvent pas totalement dire.
Évidemment.
Dans le discours que vous évoquez, d'octobre 1945, Oppenheimer, je tiens quand même à le dire pour les auditeurs, a évoqué d'autres arguments avant. En l'absence d'armes nucléaires, je le cite, il serait très difficile, voire impossible de gagner la guerre. Plus loin, il est juste que le monde sache ce qui peut être fait dans le domaine nucléaire et affronte cette réalité, ce qui ne veut pas dire l'utiliser, mais savoir, bien donc sûr. Être capable d'avoir ce moyen-là et de s'y confronter. Il pense aussi que l'endroit du monde le plus favorable, ce sont les États-Unis. Parce que eux sont en mesure de conduire à une solution raisonnable et que la probabilité de conduire au désastre sera minimisée. Mais je trouve que le plus fort de tous les arguments, le plus philosophiquement problématique, c'est celui qu'il emploie à propos de la science et qu'il reprend, et pour le coup, en 1958, alors qu'entre-temps, il se sera opposé à la bombe H à partir des années 1940-1950. Il refusera de continuer à travailler pour le nucléaire. Écoutez ce qu'il dit le 5 juin 1958, Oppenheimer. C'est une archive de la RTF.
Pour moi, c'est mauvais de ne pas connaître si on peut connaître. C'est mauvais de ne pas savoir ce qu'on peut savoir. Ça ne veut dire qu'il faut préparer tous les engins, toutes les techniques pratiques que la science permettra. Il ne faut faire tout le mal que la science permettra. Mais il faut savoir, si on peut savoir. Je ne crois pas que c'est pratique de l'arrêter. Si on le fait soi-même, les autres vont le faire. Je ne crois pas que c'est moral, parce que c'est le destin de l'homme de savoir tout ce qu'il peut et de vivre avec cette connaissance. C'est un destin difficile, mais si on ne tâche pas de vivre avec la connaissance, on n'est pas proprement Non, du tout.
Oui. Une dernière question, monsieur le professeur. On cite souvent en France, du moins, je pense qu'on le cite aussi en Amérique, un mot d'Einstein qui dit « Si c'était à recommencer, je me ferais plombier. »
Oui.
Et vous ?
Je suis très content que les conditions de la vie humaine soient telles qu'il ne faut jamais répondre à de telles questions.
Ange Potin, vous êtes docteur en philosophie, vous réfléchissez au mal que le nucléaire peut faire au monde, même en dehors de la bombe atomique, aux traces radioactives. Là, vous avez... Alors, je ne sais pas ce que vous entendez. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit Oppenheimer, mais personnellement, ce que j'entends, c'est le problème n'est pas la science elle-même. La science n'est ni morale ni amorale, ni immorale ni morale. Elle est le problème moral est là à partir de la science et nous devons, c'est le destin de l'homme d'avoir ce dilemme moral, mais refuser de savoir n'est pas la solution, en tout cas pas celle qu'il adopte. Et je pense, Olivier Rey, qu'il incrimine, enfin, il est pour la science, mais aussi la technologie, ça fait partie du savoir. Ange Potin, comment entendez-vous ces propos?
Là, je pense que il n'y a pas vraiment lieu, en tout cas je fais partie d'une école de pensée qui pense qu'il n'y a pas vraiment lieu de séparer la science du reste de la société et que la science n'est pas une sorte d'autorité intégralement indépendante et pure qui existerait en dehors de toutes les autres logiques sociales et politiques. Et par ailleurs, là, ce que j'entends dans ce que dit Oppenheimer, c'est mauvais de ne pas connaître ce qu'on peut connaître,
oui.
Ce qui est une formule assez impressionnante et assez glaciale, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir connaître? Et je pense aussi que, la science est moins à l'initiative de la connaissance que, si vous voulez, à la remorque de la capacité d'action technique, quoi.
Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'il dit là.
Ah ben je pense que non, je pense qu'il dit quelque chose qui est très juste dans ce que ça signifie de l'enrôlement des savants dans les logiques industrielles. C'est que il y a des capacités d'action technique. On peut aller plus loin dans l'exploitation des matériaux. On peut aller plus loin dans le fait de construire des infrastructures qui nécessitent énormément de matériaux et de main d'œuvre, mais qui permettent d'avoir des nouvelles connaissances. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de suivre le rythme. Voilà. C'est cette question de suivre le rythme qui avait été soulevée par Olivier Rey. On peut penser aussi aujourd'hui à ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça repose sur l'exploitation de quantités faramineuses de données, sur des monopoles énormes par certaines entreprises et sur des réseaux de data centers qui consomment énormément d'énergie. Mais sur cette base-là, il y a tout un ensemble de personnes qui trouvent ça absolument fascinant de continuer à aller de plus en plus loin dans ce qu'on est capable de faire avec des large language models, etc. Et là, je pense que c'est là que se joue quelque chose qui est en effet éthiquement au moins ambivalent, quoi.
Harry Bernas, vous êtes le scientifique, ce matin vous êtes physicien. Vous pensez, vous, qu'il faut savoir arrêter de faire de la science quand on est scientifique? Ou bien vous pensez, comme Oppenheimer, qu'on peut choisir qui on sert? Et il a servi l'Amérique en 43, 44, 45, pour les bombes japonaises. Il a refusé de le faire après avec la bombe H.
Bon, il y a un aspect factuel qu'il faut régler. Il n'a pas refusé de le faire.
Vous parlez de la bombe, des premières bombes ?
Je parle de la deuxième aussi. Non, il était contre le développement de la bombe H.
Oui.
Ça, c'est vrai, pendant un certain temps. C'est-à-dire que il a été cohérent avec le discours qu'il tenait avant. Et le discours la citation que vous avez faite.
À la suite de la vôtre.
L'interview avec Pierre Desgroupes. Il y a eu un moment dans le développement d'un bombe H. Oppenheimer était contre pour des raisons qui étaient des raisons politiques. Et puis, il y avait aussi le fait qu'on ne savait pas si c'était possible de faire la bombe. Et il y a eu un moment dans le développement scientifique qui se faisait à Los Alamos sur le travail sur la bombe, il y a eu un moment où le problème a été théoriquement résolu. par un développement théorique et une idée nouvelle, en fait, une idée nouvelle qui concernait à la fois les aspects fondamentaux et les aspects technologiques, ce qui nous ramène à ce que disait Olivier Rey tout à fait au début. Bon, donc, la porte s'est ouverte et la possibilité de réaliser la bombe est apparue. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé dans la tête d'Oppenheimer, comme dans la tête d'un grand nombre de scientifiques parmi les plus compétents de l'époque, c'était donc ça va être possible de faire un objet, la bombe, qui est la reproduction des processus qui se passent dans le Soleil. C'est passionnant. Mm-hmm. On ne va pas rater ça.
Eh oui. Voilà. Vous touchez exactement le point
exactement.
Qui fait qu'un scientifique a bien du mal à
oui.
tourner le dos
oui.
à de tels projets.
Oui, absolument. Mais alors du coup, évidemment, ça pose toutes les questions. C'est la destruction, la possibilité de détruire l'humanité encore plus efficacement qu'avec la bombe à fission. Parce qu'avec la bombe H, là, on y est vraiment. On est sur des dimensions planétaires. Et je voudrais vous rappeler ou vous citer une autre phrase d'Oppenheimer dans une autre interview américaine, celle-là. Et il dit, il n'y a pas de secret dans le domaine de la nature. Les secrets sont dans les pensées et les intentions des hommes. Les secrets sont dans les pensées et les intentions des hommes. C'est bien qu'Oppenheimer dise ça. Parfois, elles sont secrètes, parce que s'il peut l'éviter, l'homme préfère ne pas savoir ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est absolument fondamental. Et qui... Bon, il faut se poser la question du rapport entre la rationalité scientifique, le discours standard depuis Descartes, en passant par tout le monde, sur un discours qui est un discours de rationalité et confronter la rationalité à la morale, les aspects personnels que ça implique, les aspects politiques qui interviennent, etc. etc. Bon, d'accord. Mais il y a un moment où on sort de... Le rationnel ne suffit pas. Et il y a un moment où ce qui intervient, c'est l'amour, la haine, le besoin de pouvoir.
Et c'est là qu'on veut ne pas savoir.
Et c'est là
qu'on veut
dire
qu'il veut toujours savoir. Il y a des endroits, dites-vous,
voilà.
en le citant lui-même, où sans doute il a voulu ne pas savoir.
Oui.
Et
il n'y a pas que lui, parce que si vous pensez au dérèglement planétaire, si vous pensez à l'utilisation des pesticides discutés à l'Assemblée nationale récemment, vous lisez ces discours, le besoin de ne pas savoir, la volonté de ne pas savoir, elle n'est pas uniquement, elle est aussi politique, économique, etc., les lobbies et tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi quelque chose qui est de nature anthropologique.
Olivier Rey, en juin 1945, il y a eu un rapport. J'évoque cela parce que vous parlez de rationalité, là, Harry Bernas. Ce rapport dit rapport Franck, rédigé en grande partie par le scientifique Eugène Rabinovitch, disait, je crois qu'il est scientifique, hein, j'espère ne pas me tromper, disait, bon, il ne faut pas l'utiliser, cette bombe que nous sommes en train de fabriquer contre les civils. Et si on l'utilise, ce serait pour faire une démonstration dans un endroit où il n'y aurait pas de victimes, pour que le monde entier voit ce que peut faire cette bombe. Donc, faire une démonstration, un essai nucléaire, au fond, pour que ce ne soit jamais utilisé. Quelque chose, d'ailleurs, de cette, probablement, de cette rationalité est demeuré dans l'idée de la dissuasion. Oppenheimer répond au rapport Franck et dit, là, je suis désolé, il faut finir cette guerre. Et il faut l'utiliser vraiment. On ne peut pas dire qu'il ait fui cet argument rationnel très intéressant.
Oui, oui, mais si vous voulez, de toute façon, de manière générale, les physiciens contemporains, et plus généralement les scientifiques contemporains, sont forcément dans une position ambiguë, parce que d'un côté, ils sont animés par ce qu'on pourrait appeler la pulsion épistémophilique, l'ambition de la connaissance pour la connaissance. C'est bien dit aussi par Oppenheimer, hein, qui disait qu'il faut savoir. Mais d'un autre côté, si nous vivons dans des sociétés qui financent la recherche scientifique, c'est parce que les avancées scientifiques sont essentielles à l'élaboration de dispositifs technologiques et de dispositifs technologiques dispensateurs de puissance. Et donc, en fait, on peut toujours rêver d'une science pure, si vous voulez, qui ne ferait que faire progresser dans la connaissance, et puis après, il reviendrait à d'autres, à la société, aux politiques, etc., de décider de l'usage qu'on en fait. Mais ce rêve n'est précisément qu'un rêve, car sans ces prolongements pratiques, la société dans son ensemble se désintéresserait de la science, et si la société dans son ensemble se désintéressait de la science, celle-ci dépérirait. D'autant que cette science moderne qui élabore ces grands dispositifs technologiques, elle a besoin d'énormément de moyens. Si vous voulez, on n'est plus au XVIIe siècle où il y avait Newton avec son prisme dans une pièce obscure qui décomposait la lumière. Aujourd'hui, on a besoin de, par exemple en physique nucléaire, on a besoin de synchrotrons. Le plus grand instrument scientifique du monde, c'est au CERN. C'est un synchrotron de 27 km enterré, 27 km de circonférence. C'est un peu la plus grande cathédrale. Alors évidemment, elle ne se voit pas, elle est souterraine, mais de notre temps. Au Moyen-Âge, on construisait des cathédrales. Là, on construit un immense synchrotron.
Et donc ces synchrotrons, enfin tout ça, tout ce que cette immensité, cette monstruosité. Est-ce que vous pensez, peut-être qu'il faut que je demande ça aux scientifiques, là, Harry Bernas. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une rationalité intéressante dans le rapport Franck, qui était de dire « montrons ce que ça peut faire, mais ne l'utilisons pas ».
Oui, bien sûr, mais bon, dis donc, historiquement, le rapport Franck n'a eu malheureusement aucune conséquence dans la mesure où la décision était déjà prise. Et
Oppenheimer répond explicitement à ce rapport.
Oppenheimer avait participé à cette prise de décision qui a été antérieure de plusieurs mois au rapport Franck.
Oui.
Et donc, en fait, c'est un débat entre scientifiques. Il est très indirect.
Oui.
Ils étaient à peine au courant, mais ils savaient quand même suffisamment pour que le rapport Franck, c'était un geste désespéré qui était très intéressant dans la mesure où il faisait réfléchir et il prenait date aussi. C'était des scientifiques qui se posaient la question effectivement du caractère où est-ce qu'on va avec ça. Et j'ai encore une citation, si vous me permettez, elle est pas longue. Hein. Dans la discussion, non pas cette fois-ci, c'est sur la bombe H, mais le problème est le même, en fait. Il y a un comité qui donc conseille la Commission d'énergie atomique américaine. Dans ce comité, il y a Oppenheimer et d'autres, dont Fermi, Enrico Fermi, qui était sans doute le plus grand physicien universaliste de l'époque dans les années fin des années 40, des années 50. Et puis un autre physicien qui s'appelle Rabi, qui est intéressant pour bien des raisons. C'est un personnage très extrêmement cultivé. Son père était rabbin et il avait beaucoup réfléchi à des problèmes généraux, etc. Et dans un rapport à la Commission d'énergie atomique américaine, un rapport technique qui sera lu par des gens qui sont des hommes d'affaires, des politiques, etc. Ils leur disent, Fermi et Rabi, en opposition avec la position de la majorité du comité qui, elle, recommandera de faire la bombe, ils disent, la nature même d'une telle arme interdit de la confier à un objectif militaire, de la confiner à un objectif militaire. Son effet pratique est de l'ordre du génocide. Il est clair que son utilisation est injustifiable du point de vue éthique si on se réfère à la dignité d'un être humain, même ressortissant d'un pays ennemi. Le fait qu'il n'existe aucune limite au pouvoir destructeur de cette arme fait de son existence même et du savoir-faire de sa construction un danger pour l'humanité tout entière. C'est un mal à tous égards.
Merci.
Ce sont des scientifiques qui écrivent ça.
C'est très intéressant. Ange Potin, j'ai l'impression que vous seriez, enfin, je peux me tromper, que vous seriez pour appliquer ce genre de phrases et de propos à d'autres développements de la science. Il n'y a pas que le nucléaire, il y a beaucoup de choses. Vous aussi d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Ange Potin, vous pensez que il y a quelque chose de génocidaire, pour reprendre le mot qui vient d'être employé, dans la science elle-même? Moi, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ça, mais je vous pose la question en reprenant le propos d'Harry Bernas. Oui, j'ai fait exprès de reprendre sur un mode encore plus provocateur.
Non, je suis d'accord pour être provocateur, mais non, là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de... Mais par contre, non, il y a quelque chose de... Si vous voulez, le fond de mon propos, ce serait de dire que dans la course au développement technique et la course au développement technoscientifique, dans la mesure où en effet, bon, il n'y a pas de développement technique depuis quelque temps sans apport de connaissances scientifiques très précises, etc. Dans cette course au développement là, il y a, si vous voulez, pour reprendre les termes de la philosophe Isabelle Stengers, il y a une injonction à ne pas prêter attention à énormément de choses. C'est-à-dire que quand il s'agit de développer une technique, les personnes qui sont enrôlées dans cette course au développement vont prêter attention uniquement à certains aspects de cette technique-là. Donc, dans le cas du nucléaire est très parlant parce qu'on prête attention à ce qui se passe dans la fission de l'atome. Donc, au niveau, si vous voulez, vraiment le plus microscopique. Et en prêtant uniquement attention à cela, eh ben, on ne prête pas attention à l'intégralité des infrastructures dans lesquelles c'est pris, des logiques politiques dans lesquelles c'est pris, également de la modification des milieux naturels et de, eh bien, aussi des travaux qui vont exposer énormément de personnes à des contaminations radioactives, à la manipulation de matériaux radiotoxiques, etc., etc. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose, je pense, dans cette injonction à ne pas prêter attention dans la course au développement,
très grave,
dans
ouais.
cette injonction à la négligence, c'est là qu'il y a quelque chose qui est
mais bon, il y a aussi des grands scientifiques.
C'est un génocide.
Oui, mais il y a des grands scientifiques qui font attention. Et puis, je voudrais quand même vous poser la question inverse. Parce que vous ne croyez pas que l'anti-science, les mouvements anti-science en ce moment, sont au moins aussi graves, voire plus graves encore, que les engagements dans la science de bonne foi et précautionneux?
Si. Oui, bien sûr.
Il y a quand même un mouvement anti-science en ce moment. Non, vous ne le sentez pas, vous?
Si, bien sûr. Ah,
Enfin, j'ai l'impression que vous me prêtez un discours anti-science, ce qui n'est pas du tout ce que
Mais au moins, c'est clair, maintenant.
Voilà. Oui. Non, c'est absolument pas ce que je dis. Parce que ce que je trouve, ce que je pense, ce dont il faut se méfier, ce dont il faut être critique, c'est l'injonction au développement technique à tout craint. Voilà. Mais absolument pas la science, parce que bien sûr qu'il y a besoin de. C'est par des connaissances scientifiques qu'on connaît les dégâts du développement. Si vous voulez, c'est pas la science le problème.
Entendu. Merci, ça vous clarifiez beaucoup votre position là. En tout cas, moi, je comprends mieux là. Harry Bernas sur cette question de la science et de l'anti-science.
Je crois qu'il faut il faut se dire des choses très 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 élémentaires qu'on a tendance. On a plus que tendance. Il y a une espèce de c'est massif. C'était l'effet de séparer la science du reste. Non, la science c'est une activité humaine comme il y en a d'autres. C'est une activité humaine parmi d'autres. Elle interfère avec les autres. Et c'est en tant qu'activité humaine que les décisions de développer tel ou tel aspect prennent une part. Et comme c'est une activité humaine, interviennent des effets de domination, de volonté de domination, comment accroître son pouvoir, etc. L'IA, c'est un exemple. La lutte contre le dérèglement climatique ou l'absence de lutte contre le dérèglement climatique, c'en est un autre, etc., etc. Donc, non, on a besoin d'une activité scientifique importante pour gérer les effets qui permettent la survie de l'humanité dans la période où on est. Et avec le dérèglement climatique, avec les processus qu'on a développés, que l'humanité a développés par ailleurs, sans réaliser quels seraient les impacts correspondants, etc. On a besoin de la science, comme on a besoin d'autres activités humaines, mais il faut une science intelligente. Et comment on fabrique une science intelligente? En tenant compte du fait que cette volonté de domination existe, les affects existent, jouent un rôle, etc., etc. c'est-à-dire cesser de s'aveugler ou construire une science qui permette de s'aveugler moins.
J'aimerais qu'on parle quand même un peu dans cette émission, je compte beaucoup sur vous Olivier Rey, de Werner Heisenberg, qui était donc ce physicien extraordinaire allemand, 31 ans, prix Nobel de physique, et qui a fait une étrange erreur de calcul qui aurait empêché les nazis d'obtenir la bombe. Il a estimé que la masse critique de matériaux fissiles nécessaires, je lis des choses que je ne comprends pas pleinement, était de l'ordre de 10 tonnes, alors qu'en réalité, c'était plutôt 50 kilos. Je voudrais que vous m'expliquiez cette erreur, comment sur cette erreur un mythe a été construit, une espèce d'antinazisme de l'intérieur, alors qu'apparemment c'est tout à fait faux. Mais je voudrais quand même qu'on entende sa voix à Werner Heisenberg, et il ne parle absolument pas de cela. C'est en 1975, dans les après-midi de France Culture, écoutez.
Die Folgen einer wissenschaftlichen Entdeckung.
Il est souvent difficile pour le savant de prévoir les conséquences d'une découverte scientifique. Néanmoins, il devrait tout faire pour prévenir un mauvais usage dans la mesure où ses possibilités le lui permettent.
Vers où se dirige la pensée des physiciens modernes pour expliquer par une loi unitaire tous les phénomènes physiques?
Die Aufgabe, die vielen verschiedenen Erfahrungsbereiche der Physik.
De lui-même, le développement des sciences physiques a conduit à une formulation uniforme, une sorte de loi de la nature pour tous les différents domaines d'expérience possibles. Ces différents domaines d'expérience sont liés empiriquement. Il n'est donc pas possible de les séparer dans la science sans tomber dans l'arbitraire. C'est pour cette raison qu'Einstein s'est efforcé de trouver la théorie des champs à la suite de sa théorie des gravitations. Il n'a pu aboutir dans ce domaine, faute d'y avoir inclus ses propres observations sur la théorie des quantas. J'ai moi-même travaillé dans cette voie en faisant entrer cette fois parmi les principes de base de cette expérience et la théorie de la relativité et celle des quantas. L'avenir montrera jusqu'où cela nous aura permis d'aller.
Bon, il parle de science là. Je ne sais pas dans quelle mesure on lui a demandé de s'expliquer sur la période où il a fait ses mauvais calculs empêchant les nazis d'avoir la bombe. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Rey? C'est bizarre pour un grand scientifique comme ça d'avoir échoué sur une question de calcul. Je précise juste pour les auditeurs qu'en juillet 1945, il a été attrapé par les Américains avec d'autres physiciens. Ils se sont retrouvés en Angleterre. On a enregistré leur conversation. Eh bien, racontez la suite.
Oui, en fait, le cas Heisenberg est très intéressant. Alors, c'était quelqu'un qui, à la base, n'avait pas de sympathie nazie. Et d'ailleurs, dans les années 1930, où il était une star quand même de la physique allemande, les nazis se méfiaient beaucoup de lui, ont empêché d'ailleurs qu'il ait certains postes prestigieux. En fait, lui, c'était un Allemand nationaliste qui ensuite, pendant la guerre, finalement, comme c'était le plus grand physicien que les Allemands avaient sous la main, c'est lui qui finalement a été mis à la tête des recherches nucléaires en Allemagne. Alors, la différence qu'il y avait entre l'Allemagne et les États-Unis, c'était que l'Allemagne était un pays en guerre et que les moyens que les Allemands ont pu consacrer à ces recherches nucléaires ont été bien moindres que ceux qui ont été consacrés aux États-Unis. Et donc, quand on a entendu tout à l'heure l'interview de Truman, il parle de ces 2 milliards de dollars.
Oui.
Bon, en Allemagne, il n'y avait pas des moyens tels. En plus, Heisenberg avait dit aux autorités qu'il faudrait plusieurs années pour faire aboutir le programme. Hitler pensait que la guerre serait déjà terminée, donc que ça ne l'intéressait pas beaucoup. Donc les financements n'ont pas été très grands. Cela étant, Heisenberg, s'il avait pu construire la bombe, ne se serait absolument pas gêné pour le faire. Et après la guerre, quand il a dit, il a été, je pense, très vexé par son erreur de calcul.
Oui. Et puis d'ailleurs, quand la bombe a explosé, les deux bombes au Japon, les scientifiques, certains étaient vexés d'autres étaient mal, juste culpabilisés. Il y a eu plusieurs types de réactions. Mais encore lui, une fois, on a les enregistrements qui n'ont été rendus publics qu'en 1994.
Lui, il n'en revenait pas, quoi, qu'ils aient réussi à aboutir, alors que lui n'y avait pas réussi. Et alors après, il a un peu participé à créer un mythe comme quoi il aurait fait exprès de faire des erreurs de recalcul pour ne pas donner la bombe aux autorités nazies. Je pense que c'était beaucoup plus pour protéger son orgueil de physicien qui était vexé que aux États-Unis c'est marché alors que lui-même n'avait pas réussi à faire aboutir le programme.
Vous êtes d'accord, Henri Bernas, un orgueil de scientifique blessé?
Oui. Mais enfin, vous savez, moi je suis très marqué par une phrase que Heisenberg a dite à Franz Simon, qui était un Allemand réfugié aux États-Unis. Ils se sont rencontrés, ils se sont retrouvés, puisqu'ils se connaissaient. Ils se sont retrouvés en 1947. Et Heisenberg a dit à Simon, dont une grande partie de la famille avait été déportée à Auschwitz et était mort dans les fours à gaz. Il lui a dit, vous savez, si les nazis étaient restés au pouvoir encore quelques années, ils auraient été tout à fait fréquentables. Pour moi, ça règle le compte de Heisenberg.
Ange Potin, je vous laisse le dernier mot sur Heisenberg, si vous le souhaitez, sur jusqu'à quel point la science peut se poursuivre en étant moralement précautionneuse et à quel moment pensez-vous qu'il faut arrêter, comme certains biologistes ont arrêté de chercher en génétique. Est-ce que le suspens vous paraît moralement parfois nécessaire?
Oui, bah merci. Non, je voulais juste revenir sur la question de la. Voilà, il y a de la science précautionneuse, il y a de la science qui documente de manière cruciale, quoi, des choses qu'on a besoin de savoir sur notamment les dommages environnementaux de la technique, etc. Je pense dans le nucléaire aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là et sur la gestion des déchets et du démantèlement. Et je pense que la question dans ce cas-là, c'est pas tant est-ce qu'il faut arrêter la science en général ou pas. Ça, je pense, c'est une question qui a pas beaucoup de sens. Mais la question, c'est de savoir de choisir à quelle logique sociale, à quelle logique politique est-ce que en tant que savant, on veut s'associer ou non, quoi. C'est plutôt dans
cette. Oui, c'est très clair là aussi, mais c'est très clair sur le plan théorique. Mais problème, oui, Olivier.
Il y a un certain nombre de scientifiques en fait qui résolvent, qui vivent dans une sorte de clivage. Et un exemple extraordinaire de ça, je l'ai trouvé chez John von Neumann, qui est un des plus grands scientifiques du XXe siècle, qui a commencé dans les mathématiques théoriques, qui a écrit un livre fondamental sur les fondements mathématiques de la mécanique quantique. Et puis, au fur et à mesure de sa carrière, il a de plus en plus dérivé vers la science appliquée. Il a participé au projet Manhattan, et c'est notamment celui qui a calculé l'altitude optimale à laquelle faire exploser la bombe pour qu'elle fasse le plus de dégâts. Donc voilà, de ce point de vue-là. Et puis ensuite, il est mort en 1957, il a toujours fait partie des instances de l'appareil d'État militaire américain pour la dissuasion nucléaire, pour les missiles balistiques. Il était vraiment appliqué à fond là-dedans. Et en même temps, 2 ans avant sa mort, il a écrit un texte qui s'appelle « Can we survive technology ?»
Un texte inquiet.
Et déjà, poser la question, c'est y répondre. Ouais. Et il dit « L'orbe terrestre est entrée dans une crise qui mûrit rapidement. »
Je suis désolé, il faut que je vous
comprenne. Voilà.
Il faut que j'envoie
et
la
à la fin, il dit « Les risques terribles de guerre nucléaire qui pèsent actuellement sur nous pourraient céder la place à d'autres plus terribles encore. »
Eh bien, je vous remercie
voilà,
beaucoup
donc, pour ne s'illusionnez pas, donc,
ces précisions. Voilà. Merci Olivier Rey, Harry Bernas et Ange Potin. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse à l'accord et au désaccord. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi la critique interne est-elle nécessaire? Chacun d'entre nous ressent aujourd'hui finalement une double tension critique face aux événements politiques de notre époque. Il y a évidemment des critiques radicales, nécessaires, adressées à des transgressions qui nous paraissent venir de l'extérieur, menacer brutalement notre propre vie. Ce sont tout simplement parfois des agressions guerrières. Par exemple, quand l'Ukraine a été attaquée manifestement par son voisin russe. Il y a aussi donc cette peur de la guerre, cette peur de la domination extérieure, cette peur aussi de la tyrannie, cette peur de l'ennemi, cette peur contre laquelle il faut se protéger, et cette critique aussi qui doit permettre de reconstruire, même avec l'ennemi, une paix, un cadre commun qui est vital pour la sécurité du monde, surtout quand il y a des dangers communs, justement, par exemple, planétaires et climatiques. Mais nous ressentons tous aujourd'hui, et c'est très frappant dans tous les pays, notamment démocratiques, parce qu'au moins dans ces pays-là, cela peut s'exprimer, non seulement la critique de l'adversaire, mais la critique intime, la critique de notre propre communauté, de notre propre pays, de notre propre filiation, parfois dans les familles elles-mêmes, parfois au plus proche. Oui, aujourd'hui, les disputes reviennent sur des sujets politiques. Quelle communauté aujourd'hui n'est pas déchirée de l'intérieur? Et c'est pourquoi il faut revenir peut-être au plus grand livre du XXe siècle sur ce qu'est un intellectuel, sur ce qu'est la critique sociale, un livre qu'il est peut-être urgent de rééditer, qui n'a jamais eu en France le retentissement qu'il devait avoir, le livre de Michael Walzer, intitulé en français « La critique sociale au XXe siècle », en anglais « The Company of Social Critics ». Michael Walzer est un philosophe politique très connu par ailleurs, mais ce livre, qui est peut-être le plus important qu'il ait écrit, est fondamental aujourd'hui et doit être relu. Pourquoi ? Parce qu'il montre que l'intellectuel véritable du XXe siècle, et sans doute du XXIe siècle, ce n'est pas l'intellectuel qui juge de haut, comme si lui-même était dans l'abstrait, dans la perfection, et donnait des bons points ou des mauvais points aux gentils et aux méchants, comme s'il n'en était pas. Non, le vrai critique social, le plus déchiré, le plus profond, c'est celui qui, et il cite par exemple Camus, mais il y a une quinzaine de chapitres avec ceux qui sont des intellectuels abstraits, et ceux qui sont justement pris dans la critique intime, intérieure de leur propre communauté, eh bien, il cite Camus pour montrer comment le déchirement d'un intellectuel l'affecte au plus profond dans la critique de sa propre communauté. C'est le cas de Camus autour de la guerre d'Algérie. Ce moment où Camus a peut-être d'ailleurs trahi sa position morale fondamentale, l'a trahi dans le déchirement pour garder un attachement qu'il ne pouvait peut-être pas critiquer jusqu'au bout. C'est cette fameuse phrase « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Sa mère pied noir, alors que même il défendait, il critiquait la violence coloniale, mais il n'a jamais assumé l'indépendance de l'Algérie par attachement maternel. Après cette phrase qui a suscité tant de polémiques, Michael Walzer nous rappelle que Camus est tombé dans le silence. Peut-être en effet, ce silence est-il le signe d'une tragédie intime? Le moraliste détaché et désintéressé parle d'une voix qui endort et nous restons indifférents. Mais le silence du critique solidaire est un signe de mauvais augure, un signe de défaite, le signe d'une fin. Quoi qu'il puisse ne pas avoir tort de se taire, nous restons impatients de réentendre sa voix. Oui, la tragédie du silence de Camus après cette polémique sur l'Algérie montre bien que nous avons envie de réentendre Camus, c'est-à-dire un intellectuel déchiré, parfois parlant comme le prophète, dit Michael Walzer, qui est un critique de son propre peuple, parlant à son propre peuple de l'intérieur pour le critiquer tout en restant solidaire. C'est ce lien de la solidarité et de la critique que toutes les communautés doivent retrouver aujourd'hui, sinon le monde s'écroulera.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie que je remercie très vivement en cette dernière semaine de la saison. Antoine Ravon, Anna Feulpin, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El Kabli. Merci pour votre travail, votre générosité, votre enthousiasme. Nous sommes bien tous sur France Culture, vive la curiosité !